De toutes les routes de France, d'Europe, celle que je préfère, c'est celle qui conduit en auto.
Par autorisation spéciale de la commission du même nom, la Java des bombes atomiques.
Bonjour, vous êtes sur Atomic Mac, l'émission de sortir du nucléaire, Drôme Ardèche. Aujourd'hui, nous allons passer un entretien avec Cécile Azanouma Brass, qui est une Française qui habite depuis plus d'une dizaine d'années au Japon, et nous avons eu l'occasion de la rencontrer fin avril. Donc c'est un enregistrement, mais vous verrez qu'il s'est passé dans de pas très bonnes conditions météorologiques, beaucoup de vent, etc., mais qui était par contre particulièrement intéressant. Mais avant cela, eh bien écoutez, on va passer le message à nos billettistes en colère, pour certains. Vanessa.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors non, moi je ne suis pas en colère, je vais vous parler de quelque chose de positif. Aujourd'hui, je vais vous parler donc du projet d'un élu vauclusien, Olivier Florent, qui, fort de ses trois voyages à Fukushima entre 2012 et 2013, a tissé des liens suffisamment forts avec ce pays pour que naisse l'idée de faire venir en France sept enfants de Fukushima, accompagnés d'un de leurs parents. L'objectif de ce séjour est de le consacrer aux activités en pleine nature, stage de poney, découverte du Luberon, sport de plein air et alimentation saine. Ce qu'il faut savoir sur ces enfants qui viennent d'une région fortement contaminée, c'est que leurs parents n'ont malheureusement pas d'autre choix que de continuer à les élever et les faire grandir dans des conditions sanitaires pourtant inacceptables. Sachez par exemple qu'ils ne peuvent plus jouer dehors plus d'une demi-heure par jour et se sont vus interdire définitivement, depuis le drame du 11 mars 2011, les balades en forêt et les baignades en mer à cause du taux de radioactivité qui ne cesse d'augmenter. Ce projet louable nous tient à cœur et s'inscrit pleinement dans la lutte menée contre l'industrie mortifère du nucléaire, menée par le collectif Stop Tricastin. Mais au-delà de la démarche solidaire que nous portons aujourd'hui et à laquelle le collectif apporte son soutien, l'idée est bien celle d'informer sur la réalité quotidienne de ces milliers d'enfants japonais et sur leur calvaire qui pourrait être un jour le nôtre si nous ne faisons rien. Personnellement, l'idée même d'interdire définitivement à mes propres enfants de jouer dehors lorsque le soleil brille m'est insupportable. C'est pourtant ce que eux vivent depuis 2 ans et leur peine sera durable. En lien avec une association japonaise, Olivier Florent et l'association française Terre de Rêve, qui supervise la mission, organisent avec l'aide de bénévoles motivés une série d'événements culturels et artistiques, de vide-greniers, de conférences, afin de se faire connaître et d'en appeler à la générosité des donateurs qui permettront par leur mobilisation et leur solidarité de réunir les fonds nécessaires au financement total et à l'organisation de cet accueil dans les meilleures conditions. Animé par l'envie d'offrir à ses enfants 2 semaines de vacances en Provence, à Apte plus précisément, loin de leur quotidien marqué par la radioactivité omniprésente et la menace permanente des tremblements de terre qui secouent quotidiennement leur pays, l'équipe de bénévoles tente, par sa ténacité, de lever les fonds qui manquent encore. Vous l'aurez compris, donc, toutes les bonnes volontés sont appelées à faire des dons. Même les plus modestes compteront et contribueront à augmenter les chances pour ces enfants, tous âgés de 11 ans, de ramener chez eux de merveilleux souvenirs et de faire baisser, pour un temps, leur taux de contamination corporelle. C'est pourquoi, si ce projet vous interpelle ou vous touche, vous pouvez consulter son programme détaillé sur le lien Octopus que vous trouverez sur le blog de SDN 2607. Pour finir, je me permets d'anticiper sur l'agenda que Pierrick va vous présenter en fin d'émission, en vous signalant qu'une soirée spéciale est organisée le 5 juillet à Saint-Rémy-de-Provence, autour de la diffusion du film « The Land of Hope », et ce à partir de 20h30, soirée qui permettra de recueillir des fonds, le tarif unique étant de 5 €, et la totalité de la somme récoltée sera reversée à l'association Terre de Rêve, au profit de ce projet. Alors, quelques mots sur le film. « The Land of Hope » signifie « Terre d'espoir ». Il s'agit d'un film japonais, avec un casting japonais, un film engagé qui embrasse toutes les thématiques du débat sur le nucléaire, la santé, l'environnement, la cohésion sociale, la famille. Et c'est un film qui est décrit par les critiques comme direct et poétique, aussi dur que sentimental. Venez donc le voir ce vendredi au Ciné-Palace de Saint-Rémy-de-Provence. Sa diffusion sera suivie d'un pot de l'amitié. Pour les dons, vous pouvez les adresser à l'association Terre de Rêve. Je vous donne l'adresse. Donc c'est le 117 avenue Pierre Sémard, Avignon 84 000. Voilà, donc si ce projet vous interpellent. Je vous remercie d'avance pour eux et je vous remercie également de votre attention. Je vous souhaite une bonne journée à tous.
Merci Vanessa. Voilà,
je laisse la parole à mes collègues.
Céline, qui veut nous parler du MOX.
Oui, bonjour à tous. En petite introduction, je voulais dire que ce billet est en grande partie inspiré de l'article « Le plutonium, enjeu tabou de la transition énergétique » publié sur le site Actu Environnement le 25 mars 2013. Et cet article s'appuie sur de nombreuses données issues de l'association Global Chance. Lors de la négociation préélectorale entre le Parti Socialiste et Europe Écologie Les Verts à l'automne 2011, le MOX avait fait l'objet d'un paragraphe qui, au début, n'avait pas attiré l'attention. Le texte préconisait une reconversion de la filière de retraitement et de fabrication du MOX en centre d'excellence de traitement des déchets et du démantèlement. Ces lignes avaient ensuite disparu du texte. Les négociateurs du Parti Socialiste ayant été interpellés par l'industriel Areva, inquiet pour l'avenir d'une filière très française, celle du retraitement des déchets nucléaires. Suite à des pressions politiques des Verts, ce paragraphe a ensuite été réintroduit. Officiellement, le MOX sert à recycler les stocks de plutonium pour ralentir leur accumulation. Un réacteur nucléaire produit chaque année environ 250 kg de plutonium. Une partie de ce plutonium est réutilisée dans le combustible MOX. Celui-ci est destiné à certains réacteurs à eau légère, comme l'unité 3 de la centrale de Fukushima, ou, en France, les réacteurs du Tricastin. Selon Areva, le recyclage permet d'économiser jusqu'à 25% d'uranium naturel et de diviser la radioactivité des déchets par 10. Certains scientifiques assurent au contraire que les déchets du MOX sont plus dangereux et plus coûteux à stocker. En effet, il faut une centaine d'années de plus pour les refroidir avant leur stockage définitif. Rappelons également que le plutonium est une matière excessivement toxique. Selon l'IRSN, l'inhalation d'une dizaine de milligrammes d'oxyde de plutonium suffit pour provoquer la mort. La commercialisation du MOX augmente les risques liés à la manipulation de cette matière. Elle est transportée par train à travers l'Europe et par bateau vers le Japon. Notre région est à ce titre assez concernée du fait de l'activité de l'usine FBFC de Romans-sur-Isère, dont l'ASN dit qu'elle souffre d'un déficit de culture de sûreté. En 2009, à Cadarache, Bouches-du-Rhône, plusieurs dizaines de kilogrammes de plutonium sont restés dans les boîtes à gants de télémanipulation en dehors de toute comptabilité. Les risques de détournement de plutonium sont accrus. Rappelons que 8 kg de plutonium ont suffi à la confection de la bombe qui a rasé Nagasaki en 1945. La France est aujourd'hui le seul pays au monde à pratiquer le retraitement à grande échelle. Activité industrielle surprenante compte tenu du fait que les produits sortants, le plutonium et l'uranium retraités, ont une valeur comptable zéro et une valeur marchande négative, s'étonnent certains experts. La vingtaine de réacteurs qui fonctionnent aujourd'hui au MOX sont les plus anciens et arriveront en fin de vie en 2026, à peu près à l'échéance fixée par François Hollande pour réduire la part du nucléaire dans l'électricité à 50%. Le retrait des réacteurs MOXés serait alors la voie mécaniquement la plus sûre pour limiter la séparation du plutonium à La Hague. Compte tenu des quelques 57 tonnes de plutonium français déjà sur les étagères, il faudrait alors arrêter le retraitement dans les 3 ou 4 années qui viennent. Chose qui a priori n'est pas prévue car le président de la République a finalement reconduit le principe de retraitement et la production du MOX lors d'une réunion du Conseil de politique nucléaire.
Merci Céline. Alain, toi tu veux nous parler de la mine aux déchets si j'ai bien compris.
Oui, juste pour... bonjour à tous et bonjour à toutes. Pour conclure sur ce que vient de dire Céline, il faut savoir qu'un convoi de MOX vient d'arriver par bateau au Japon à la demande d'Areva pour honorer un contrat qui avait été passé avant la catastrophe de Fukushima. Les Japonais n'étaient pas tellement intéressés par ce MOX, mais Areva a fait jouer la teneur du contrat. Et on peut dire que la France a imposé un envoi de MOX au Japon, ce qui est quand même assez monstrueux. Et il y a des jours, on a parfois un peu honte d'être français. Bon. Moi, je voudrais vous parler aussi des transports de combustible nucléaire, mais en France et tout particulièrement dans notre région. Notre réseau Sortir du Nucléaire vient de lancer une campagne sur le thème nucléaire de la mine aux déchets, tous concernés, avec ce mot d'ordre, ce slogan « Barrons la route à l'uranium ». En effet, l'uranium, après avoir été extrait de la roche dans les mines au Niger ou en Australie, jusqu'à son retraitement à l'usine de La Hague, ne cesse de voyager par bateau, en train, par camion, sous forme de combustible ou de déchets, et ceci sans qu'aucune information ne soit jamais donnée aux populations sur les risques entraînés par ces transports dangereux, réguliers et nombreux. Examinons cette route de l'uranium. Une fois arrivé par bateau dans le port de Sète, il est tout d'abord acheminé par train jusqu'à l'usine Comurex Malvésie, près de Narbonne, pour être transformé une première fois. Il est ensuite, en camion-citerne, envoyé sur le site du Tricastin pour être à nouveau transformé à l'usine Comurex Pierlatte, puis pour être enrichi dans l'installation Georges Besse II, toujours à Pierrelatte. De là, l'uranium est enfin transporté jusqu'à l'installation FBFC, franco-belge de fabrication du combustible, à Romans, où il sera conditionné sous forme de pastilles, puis placé dans des tubes, formant ainsi des barres de combustible nucléaire qui seront utilisées dans les réacteurs. Ce n'est qu'une fois que ces multiples transformations sont réalisées que l'uranium est envoyé vers les 19 centrales nucléaires françaises, générant à nouveau des transports dangereux. C'est pourquoi, mercredi 19 juin dernier, avec l'aide de nos amis du CAN 84 et de Greenpeace Avignon, nous avons mené une action commando mais non violente, car nous sommes non violents, devant le site nucléaire de Tricastin pour dénoncer ces transports de matières radioactives sur les routes de notre région et informer les populations en montrant l'envers du décor. L'action a obligé Areva à boucler tous les accès de son site pendant plusieurs heures. Dans le même temps, à Malvézy, dans l'Aude, d'autres militants bloquaient aussi le site nucléaire de la Comurex. Par cette double action, nous avons voulu dénoncer les risques quotidiens que fait courir l'industrie nucléaire aux populations de Rhône-Alpes et du Languedoc-Roussillon. Le cliché d'une industrie nucléaire propre est bien maîtrisé et bien éloigné de la réalité. Ces premières étapes de la chaîne de l'uranium prouvent que cette industrie, même dans son fonctionnement quotidien et régulier, fait peser un risque considérable sur les populations, et ce, sur tout le territoire. Il n'y a pas de nucléaire sûr, et la meilleure façon de garantir l'absence de risque est de se passer de cette technologie mortifère.
Merci Alain, on a pris un tout petit peu de retard, c'est pour ça que je te pressais. Avant d'écouter Cécile Azanuma Bryce qui vient du Japon, eh bien, je vous propose d'écouter Charles Trenet, Route Nationale 7, la route du MOX et la route des vacances aussi.
De toutes les routes de France, d'Europe, celle que je préfère, c'est celle qui conduit en auto ou un autostop vers les rivages du Midi. National 7, il faut l'apprendre qu'on aille à Rome à 7, que l'on soit 2, 3, 4, 5, 6 ou 7, c'est une route qui fera 7. Route des vacances qui traverse la Bourgogne et la Provence, qui fait de Paris un petit faubourg de Valence et la banlieue de Saint-Paul-de-Vence. Le ciel d'été remplit nos cœurs de sa lucidité, chasse les aigreurs et les acidités qui font le malheur des grandes cités. Tout excité, on chante en fête, les oliviers sont bleus, ma petite Lisette, l'amour joyeux est là qui fait risette. On est heureux, National 7. Route des vacances qui traverse la plus belle partie de la France, qui fait de Paris un petit faubourg de Valence et la banlieue de Saint-Paul-de-Vence. Le ciel d'été remplit nos cœurs de sa lucidité, chasse les aigreurs et les acidités qui font le malheur des grandes cités. Tout excité, en chantant fête, les oliviers sont bleus, ma petite Lisette, l'amour joyeux est là qui fait risette. On est heureux, National 7. On est heureux, National 7. On est heureux, National 7.
Cécile, des dizaines de milliers de personnes ont été évacuées de Fukushima après le tsunami et l'accident nucléaire. La question qui se pose, c'est 2 ans après, quelle analyse peut-on tirer de cette évacuation de population ? Comment cela s'est-il opéré réellement ?
C'est par le biais du logement qu'on a tenté de gérer et qu'on gère encore aujourd'hui les mouvements de population suite à la catastrophe à la fois naturelle, le tsunami, le tremblement de terre, et suite à la catastrophe aussi humaine de l'explosion de la centrale nucléaire. La question fondamentale qui s'est posée après la catastrophe, ça a été celle du refuge. Est-ce qu'on permet aux gens ou non de pouvoir avoir accès au refuge, ou est-ce qu'on décide de fixer les populations là où elles se trouvent? Le droit au refuge, 2 ans après, les populations n'y ont toujours pas accès. Comment ça s'est mis en place? Tout d'abord, on a construit des logements provisoires, dans un premier temps sur les zones contaminées, dont on savait qu'elles étaient contaminées, mais le gouvernement a dit que les personnes qui avaient l'information de la contamination étaient ceux qui relevaient du ministère de l'Environnement, alors que le ministère de la Construction, lui, n'avait pas les informations. C'est comme ça qu'ils ont justifié le fait d'avoir construit des logements provisoires sur les zones contaminées. Néanmoins, 2 ans après, ces logements sont toujours habités et on continue à construire sur ces zones qui aujourd'hui sont encore au-delà de la norme acceptée pour la population civile internationalement.
C'est-à-dire que là, on est dans une zone autour des 30-40 km de la centrale nucléaire, quoi.
Voilà, c'est voilà. Ça. Ou 60. Mmh. Ça dépend des endroits. Il y a des endroits qui sont encore bien contaminés au-delà des 60 km. Il y a eu néanmoins un premier vent où on a ouvert la gratuité des logements publics sur l'ensemble du territoire pour toute personne qui voulait partir. En décembre, le 28 décembre 2012, pardon, le gouvernement prend la décision et rend l'information publique uniquement par voie de presse que l'on cesse la gratuité des logements publics sur l'ensemble du territoire japonais, et qu'on l'autorise uniquement dans le département de Fukushima. Donc, par le biais du logement, on instaure une politique où on décide que la population doit revenir habiter dans le département de Fukushima. Alors, ça ne se passe pas que par le logement, même si c'est lié. Il y a d'autres mesures qui ont été mises en place. Donc, cet appel via le logement... Également, une politique de décontamination qui a été mise en place pour rassurer les populations.
Oui, dont on a vu qu'elle n'était pas d'une grande efficacité, mais bon, voilà.
Dont on a vu qu'elle ne fonctionnait pas. Hein. Il y a de nombreuses études qui ont été faites là-dessus, et notamment l'étude qui a été faite par la CRIRAD et le CRMS, qui prouve que de toute façon, on ne peut pas tout décontaminer. Que même si on arrive à faire baisser à un moment donné le taux de contamination en raclant la terre avec les problèmes de ruissellement, etc., de toute façon, on arrive toujours... le taux de contamination finit toujours par remonter. Et puis, les habitants ne sont pas dupes. Moi, j'ai interviewé des gens dans les logements provisoires qui nous disaient... on arrose notre maison avec un jet d'eau. C'est la seule chose qui est faite tout de même pour les maisons individuelles. Donc l'eau, de toute façon, coule chez le voisin. En plus, on coupe les feuilles des arbres. À l'échelle d'un département, c'est complètement inouï. On coupe les feuilles des arbres, on racle l'humus. Et puis, on met tout ça dans des gros sacs de terre qu'on entrepose. Alors, on a des champs entiers où on voit des sacs de terre sur 3-4 étages, dont on ne sait pas quelle sera la durée de vie de résistance de ces sacs de terre, qui font aussi que il y a des endroits où le taux de contamination, puisque tout est regroupé au même endroit, devient explosif. On atteint encore des niveaux absolument inquiétants. Et d'autant plus que ce sont des endroits où la population passe régulièrement. La décontamination dans l'environnement est prise en charge en partie par le gouvernement. Par contre, la décontamination des maisons individuelles, hormis la zone des 20 km, est assumée par les propriétaires individuellement. Donc c'est une charge, c'est tout un commerce qui s'est mis autour de la décontamination. pour les maisons individuelles. Et pour ce qui est de l'environnement, par contre, c'est un budget énorme qui pourrait être utilisé pour permettre le droit au refuge et qui ne l'est pas. Donc ça veut dire qu'il y a une détermination ferme de faire en sorte de fixer les populations sur les zones contaminées et de faire en sorte à ce qu'on tente d'oublier tout ça. Alors ça part par des thèmes clés dont vous avez certainement entendu parler, qui sont notamment le concept de résilience. Alors, en France, le concept de résilience avait tout un aspect assez positif, développé par Boris Cyrulnik, qui consistait à travailler sur la résilience psychologique. Mais au Japon, il ne s'agit pas de résilience psychologique. On demande au corps de s'adapter à l'atome. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on demande aux gens de rester et de pouvoir faire en sorte de faire avec. Faire avec physiquement, je ne sais pas si c'est possible. Moi, je ne suis pas un médecin, mais manifestement, les premiers rapports sanitaires nous montrent, vous savez que sur un échantillon d'à peu près 38 000 personnes, il y a déjà 3 enfants d'en moyenne 15 ans qui ont été opérés d'un cancer de la thyroïde, 7 qui sont en observation. Lorsqu'on sait que le cancer de la thyroïde est un cancer relativement rare chez l'enfant, puisque le taux naturel serait de 1 à 3 pour 1 million, on peut penser que la situation est quand même relativement inquiétante. C'est le moins qu'on puisse dire.
Là, on voit bien, il y a eu mouvement de reflux, évacuation un temps. Maintenant, on essaye soit de fixer les gens, soit même de les faire revenir, par le biais, comme tu l'expliquais, soit du travail, soit même d'ailleurs en les incitant, parce que financièrement, quoi, du fait, à revenir. Bon, on a l'impression qu'on va analyser un peu les conséquences sur la population. On utilise des centaines de milliers de personnes comme cobayes. Tout ça a obligatoirement des conséquences psychologiques pour ces gens qui reviennent. Parce que nous, on le voit dans la Drôme, on a une quantité de gens qui habitent autour des centrales, des réacteurs et qui ne savent même pas qu'il y a un réacteur à côté. Le jour où il y aura un accident, ce sera une vraie rupture pour eux. On imagine qu'au Japon, ça doit être à peu près la même chose. Cet effet de retour aujourd'hui, de revenir ou de ne pas pouvoir revenir dans son village natal ou dans son lieu de travail, ça doit avoir provoquer un certain nombre de modifications, je dirais, dans l'esprit, dans les réactions de la population. Est-ce qu'on peut commencer à mesurer aujourd'hui les conséquences psychologiques dans la population, c'est-à-dire violence, réaction, dépression, suicide, etc.
Vous avez utilisé le terme juste de rupture. C'est vraiment ce qu'on observe, c'est-à-dire qu'à partir de dans sa trajectoire, dans sa vie, la plupart des gens la totalité peut-être même, peut-on dire, des gens qui ont vécu cet événement ont eu une rupture dans leur vie. Alors, il y a différents... cette rupture, elle peut avoir un volet positif aussi, et elle peut avoir un volet négatif. Le volet négatif, on va commencer par les choses les plus mauvaises pour terminer par des choses un peu plus positives. Elle concerne essentiellement les gens qui restent. Alors, pourquoi restent-ils? La plupart d'entre eux n'ont pas forcément le choix. C'est-à-dire qu'ils ont investi dans un logement, dans du matériel agricole, etc. Ils se sont endettés. On leur demande de continuer à payer leurs dettes vis-à-vis de tout ça et puis de pouvoir en plus assumer le prix d'un nouveau loyer ailleurs. Donc, les gens qui ont des enfants ont décidé de faire ça. Il y a maintenant 160 000 personnes, selon les autorités, qui ont pris la décision du refuge, décision qu'on dit volontaire. Les gens sont dit puisque le droit au logement, même s'il est reconnu, n'est pas suivi d'un soutien financier. Donc c'est un refuge volontaire. Par contre, une autre partie de la population, elle, est restée. Alors pour la partie de la population qui est restée, notamment dans les logements provisoires qui se trouvent sur les zones contaminées, ce que l'on observe, c'est un accroissement de la violence vis-à-vis même des enfants dans les foyers, qui est dû d'une part à des surfaces qui sont extrêmement restreintes quand on vit dans un logement provisoire qui fait 40 mètres carrés avec deux ou trois enfants, bien au bout d'un moment, nerveusement, la tension monte et ça génère des violences à l'intérieur de la famille, aussi parce que les enfants ne peuvent pas sortir dehors. Donc il y a cette inquiétude permanente et sous-jacente depuis 2 ans qui pèse sur tous. Et alors qu'on disait aux enfants avant, eh bien, va faire un foot dehors avec tes copains ou va t'amuser avec les autres. Maintenant, on leur dit, tu restes à la maison, tu restes devant la télé, tu restes à faire des jeux, surtout ne sors pas. La seule sortie qu'ils ont, c'est traverser les territoires contaminés pour se rendre dans leur école, où là encore, on leur dit, pas de jeux, pas de sport à l'extérieur, vous avez 5 minutes montre en main pour faire le tour de la cour et courir, pour se défouler un minimum, et ensuite vous rentrez de nouveau à l'école. Donc il y a une tension qui dure depuis 2 ans. 2 ans, c'est extrêmement long pour un être humain. Et ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un moment, psychologiquement, c'est quasiment intenable. Donc il y a une partie de la population qui a laissé tomber et qui a décidé de rentrer dans cet engrenage de l'oubli, parce que c'est intenable. Une autre partie de la population, on est en train d'observer un taux de dépression croissant et également donc un taux de violence croissant vis-à-vis de ses propres enfants.
L'oubli, ça veut dire, ce sont des gens qui ont décidé de vivre comme avant en faisant plus du tout attention donc aux radiations, quoi. C'est-à-dire qu'ils se disent, tant pis, on est là, on reste et puis on fait plus attention, quoi.
Voilà, c'est ça. Donc là, j'ai parlé des gens qui avaient des enfants, sachant que quand même une bonne partie, les gens qui ont cherché à le refuge sont en premier les gens qui avaient des enfants, hein, bien sûr. Situation aussi dramatique, c'est celle des personnes âgées, parce qu'elles, on peut assez difficilement leur demander de partir. Donc j'ai interviewé des gens qui étaient dans les logements provisoires de Minami-Soma, des gens qui ont entre 70 et 80 ans, et eux qui nous disaient, qu'est-ce qu'on peut bien faire? Nous, on ne peut pas reconstruire notre vie en ville, ça n'a pas de sens. Notre vie est toute ici. On était agriculteurs, on n'est pas des urbains. Ce qu'on veut juste, nous, c'est rester ensemble. Donc ils sont dans ces logements provisoires, et je leur disais, est-ce que vous voulez retourner? Eux habitaient dans la zone des 20 km. Et ils m'ont dit non. De toute façon, la décontamination, on sait bien que ça ne marche pas. C'est impossible. N'importe qui ayant un esprit, un tout petit peu de bon sens, il ne suffit pas d'être inutile d'être ingénieur pour se rendre compte que décontaminer toute une montagne ou toute une région, c'est absolument impossible. Donc non, on ne veut pas rentrer, aussi parce que les enfants de notre village sont tous partis et qu'on serait tous entre vieux. Donc, on ne souhaite pas rentrer, mais on ne sait pas où aller. Donc, on est là, et on attend. En fait, on regarde le temps qui passe. On est dans un non-temps. Et ces gens ont pris une métaphore qui m'a beaucoup touchée. Ils disaient... on est dans un marathon qui n'aurait pas de but. Donc on court. Et un autre disait, mais où, quand est-ce que ça va s'arrêter? Vers où on va? Et un autre disait, mais on n'a plus l'âge d'aller quelque part. Et ils sont fatigués. Ils attendent la mort. Alors comment... Ça se matérialise, ça peut être aussi des gens... J'ai rencontré une femme âgée qui faisait des origamis. Dans ces logements provisoires, ils ont des origamis de décorer partout. Parce que toute la journée, le temps, elle le passe à construire des origamis.
Everybody goes to be alone, where you won't
Aux enfants, là, parce que tu disais qu'ils ne peuvent quasiment pas sortir,
oui.
On leur interdit une quantité de choses, ça dure depuis 2 ans, donc ça doit être effectivement, il doit y avoir des effets. Oui. Alors il y a la violence, comme tu le soulignais, des parents par rapport à eux-mêmes ou de leur environnement, et eux-mêmes, est-ce que, comment on sent ces enfants aujourd'hui? Est-ce que tu as pu en rencontrer, en interviewer quelques-uns, comment ils vivent? On a vu dans quelques films des enfants, notamment deux petites filles qui sont assises sur un canapé et puis qui ne peuvent pas sortir, mais les effets après 2 ans, ça doit être assez surprenant et puis assez terrible.
Alors, j'ai assez peu interviewé d'enfants parce que je me refuse à le faire. Donc, c'est pas quelque chose dont je pourrais parler énormément. Ce dont je pourrais parler, c'est le fait qu'on observe l'accroissement aussi du taux d'obésité chez ces enfants qui ne peuvent pas bouger. Enfin, qui sont restreints dans leur mouvement. Quand on en parle, j'ai un petit peu parlé avec des enfants qui, eux, n'ont pas conscience véritablement de ça. Un enfant, c'est malléable, donc ça s'adapte à tout.
Complètement.
Et par contre, si ce qu'on entend, c'est... c'est effectivement ces enfants, ils sont inquiets aussi pour leurs parents. Ils veulent pas inquiéter leurs parents et ils savent qu'ils mettent leur vie en danger chaque jour et que ça inquiète leurs parents. Donc c'est cette tension-là que ça génère. Et j'entendais un maître d'école l'autre jour qui disait à un petit garçon, mais aujourd'hui tu as oublié, vous savez, ils ont les enfants un dosimètre. Et ce petit garçon avait oublié son dosimètre. Et donc le maître lui dit, t'as oublié ton dosimètre. Bon, ben, c'est pas grave, pour un jour c'est pas grave. Et le petit garçon a dit au maître d'école, si c'est grave parce que mes parents ils vont s'inquiéter, il faut absolument que j'aille le rechercher. Et donc il est rentré à la maison pour aller chercher son dosimètre. Voilà, c'est
on a une anxiété permanente en fait liée au rapport, voilà, à la fois des parents par rapport aux enfants et des enfants par rapport à leurs propres parents.
Et puis la perte de gestes essentiels, c'est-à-dire que tout ce qui est naturel, on n'y touche plus, alors qu'avant on voulait élever un enfant dans la nature parce que justement et puis Dieu sait si c'est une région qui est belle, Fukushima, on l'a suffisamment dit, élever ses enfants à Fukushima, c'était un petit bout de paradis, hein. Et donc maintenant, interdiction de toucher à l'herbe, etc. Ça veut dire qu'on les restreint dans tout ce que l'on cherchait à nier en voulant vivre à Fukushima. C'est-à-dire que tout le rapport à la nature, etc., ils y ont plus accès et on les restreint dans un bâtiment clos. Alors, la rupture positive, c'est que, par contre, ceux qui ont décidé de partir, ça a été un électrochoc pour eux. Ça a été de se dire...
On refait la vie.
Ça, c'était... On était dans l'erreur. On avait fait les mauvais choix. Et donc, à partir de maintenant, on prend conscience que ce qui est important réellement pour nous, c'est notre enfant, c'est notre vie de famille. On part ailleurs, on reconstruit, et on reconstruit autrement. Autrement, ça veut dire que le rapport à la nature, cette fois, il a une densité très très forte. Les modes de consommation, la façon de vivre dans le logement et le rapport aux autres prend une ampleur complètement décuplée.
Est-ce qu'il sortira par écrit, soit un livre, soit les conclusions de l'étude que vous faites?
Il y a un article qui va être publié dans la revue géopolitique européenne Outre-Terre, qui s'appelle Fukushima, une démocratie en souffrance. On est en train de travailler, enfin Thierry Ribaud a publié beaucoup d'articles aussi sur la question, ils sont assez nombreux, également un livre avec son épouse Nadine Ribaud. On est en train de il y a tout un matériel en ce moment qu'on est en train d'exploiter, donc oui, il va y avoir pas mal de publications à partir de maintenant qui, je l'espère, seront accessibles à tous.
Bien, on mettra sur notre site un peu déjà tout ce qu'on va pouvoir récupérer déjà maintenant, et puis on te souhaite, j'imagine, un retour bientôt au Japon. La semaine prochaine. Bon, eh bien, écoute, merci beaucoup pour cet entretien qui s'est fait dehors avec quelques oiseaux mais peu de soleil. Merci beaucoup.
Oui, difficile de repartir pour l'agenda, hein, après un témoignage aussi bouleversant. Donc Pierrick au micro pour vous présenter les activités anti-nucléaires de l'été. Tout d'abord, un voyage à pied en signe de solidarité internationale pour un avenir sans nucléaire et pour la paix dans le monde. Un voyage qui est organisé à l'initiative de Footprint for Peace et du réseau Sortir du Nucléaire. Une marche, en fait, du 1er juillet qui commence au 1er juillet et qui se termine le 27 juillet dans toute la vallée du Rhône, qui partira du Narbonnais pour remonter la vallée. Avec un objectif, c'est sensibiliser sur les effets mortifères de l'ensemble de la chaîne du combustible et la sortie du nucléaire civil et militaire dans un esprit tout à fait pacifiste, tout en faisant la promotion des solutions alternatives. Si vous voulez plus d'informations, je vous invite à consulter le blog de Sortir du nucléaire Andromardèche. Il y a là toutes les infos pour rejoindre les marcheurs, faire une étape avec eux, faire une demi-journée ou plus si affinité. Vous avez, comme le disait tout à l'heure Vanessa, la possibilité de participer le 5 juillet à Saint-Rémy-de-Provence à la diffusion du film Land of Hope à 20h30 au Ciné Palace pour 5€ par personne, donc pour soutenir les enfants qui viendraient de Fukushima à passer quelques temps dans la région. Je vous y invite fortement à vous y rendre. Comme d'habitude, tous les samedis matins de 11h à 12h30, il y a la possibilité de rencontrer les copains qui nous font la présentation de la carte des périmètres des plans d'intervention, des plans particuliers d'intervention, pardon, à Valence, à Porte-Neuve. Donc tous les samedis de l'été, n'ayez pas peur d'aller les rencontrer. Il y a également un grand temps fort qui est organisé pendant le Festival d'Avignon du 15 au 21 juillet avec la projection, enfin la scène, la pièce de théâtre L'impossible procès qui est jouée par la compagnie Brut du Béton. Cette pièce de théâtre est exceptionnelle, je vous invite vraiment à vous y rendre. Ça a lieu tous les après-midi à 16h30 à la salle Montfavet, juste à côté d'Avignon pendant le festival, et est organisé tous les jours, donc du 15 au 21 à 12h30, un grand daïn immense au milieu de la place du Palais des Papes pour simuler l'agonie d'un peuple face à un accident nucléaire. Donc n'hésitez pas non plus, si vous êtes présent sur le festival, à participer à ce type d'action. Vous êtes les bienvenus et on saura vous garantir un très chaleureux et très bon spectacle, très intéressant, très très fourni en ironie. Faut pas avoir peur d'aller le voir, c'est vraiment très divertissant aussi. Il y a la possibilité pour ceux qui le souhaite, c'est de participer pour le 19 juillet à la marche antinucléaire, donc où il y aura un passage d'un véhicule radioactif au cœur de la mairie, enfin, au cœur des rues d'Alixan, un véhicule qui est énorme, qui représente les convois exceptionnels que l'on voit dans notre vallée du Rhône, sensibiliser les gens. Donc si vous voulez nous rejoindre, ça aura lieu le 19 juillet. Une fois encore, je vous invite à consulter le blog de Sortir du nucléaire Andromardèche pour avoir toutes les informations sur cette action. La possibilité de participer le 22 juillet à 18h30, comme d'habitude, aux locaux de la Frapna, rue de Verdun, à Valence, à la réunion mensuelle de SDN 2607. Venez nombreux pendant l'été, nous en profiterons. Et puis, un petit peu d'introduction sur ce qui se fera début août, du 6 au 9 août. Il y a la possibilité de participer à un jeûne international. Encore une fois, plus d'infos sur notre site. C'est un jeûne international qui demande l'arrêt des armes nucléaires sur toute la planète. Comme d'habitude, au 0805 69 67 58, toutes les questions que vous vous posez sur le nucléaire auprès de notre répondeur. Cette émission a été présentée par Dominique avec Vanessa, Alain et Céline au micro, Andrea à la technique. Rendez-vous le 5 août prochain sur 99.2, mais avant, après Charles Trenet et la route nationale 7, Agnès Obel et Riverside, nous écoutons Elton John, Imagine, un enregistrement. Oh, pardon, excusez-moi. John Lennon, Imagine, dans un enregistrement rare public en 1978. Imagine un monde vivant en paix, sans possession, sans religion. Je suis un rêveur. Bon été à tous.
Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. And no religion. Living life in peace. hope someday